Je lis tout de suite cette question et puis nous allons continuer ensuite. Pourriez-vous définir la part du langage dans la connaissance sensible d'abord. La part du langage, qu'est-ce que ça veut dire, je veux dire la question, pourriez-vous définir la part du langage dans la connaissance, dans la connaissance sensible d'abord, puisque c'est elle que nous voyons en ce moment dans le cours de philosophie du vivant, dans la sensation d'imagination. Le langage s'enracine dans la connaissance intellectuelle. Faut pas l'oublier. Le langage implique des éléments sensibles, c'est sûr, parce que quand je vous parle, c'est audible, et donc c'est sensible, et ça a une signification qui vient de l'intelligence. Tout le problème de la signification du langage relève de la connaissance intellectuelle et pas de la connaissance sensible. C'est là où la chose est très très difficile. Il y a une question très très délicate qui est posée là, du reste, au point de vue critique. Bon, nous disons signification. Ça, c'est une question critique. Le langage a une signification. La signification relève du concept. C'est le concept qui est porteur de signification. La réalité physique, elle fonde la signification, mais elle n'a pas de signification. Ça, c'est tout le problème. Le monde physique, sans l'homme, a-t-il une signification? Et vous voyez, c'est là où les idéalistes ont pas au jeu. Vous voyez bien, du reste, c'est dit dans la Bible. On amène à l'homme les animaux, et puis l'homme les normes. Le chat. Avant que l'homme dit chat, le chat se portait très bien. Et il ne savait pas qu'il était chat. C'est ça qui est mieux. C'est l'homme qui l'a appelé chat. Donc le langage donne à la réalité, vous voyez, je veux dire, l'intelligence, en connaissant la réalité, lui donne une signification. Ça ne veut pas dire que la signification provient du droit de l'intelligence. Elle provient du concours de la réalité de l'intelligence. Tout le problème de la civilisation, qui est l'un des gros problèmes de la philosophie contemporaine. Hein. C'est pour ça que c'est bon de regarder cela. Toute la philosophie analytique, c'est le problème de la signification. D'où vient la signification? La signification du langage. D'où ça vient? Eh bien, la signification du langage vient de la coopération de la réalité et de l'intelligence. Et c'est le concept. Quand je conçois quelque chose, c'est le concept qui est porteur de signification. En premier lieu, l'image est de l'ordre de la représentation. Et souvent, je distingue, sans opposer, signification et représentation. Nous l'avons vu à propos de la connaissance symbolique. La connaissance symbolique implique représentation et signification. Donc, le concept est porteur de signification. L'image est porteuse de représentation. Le concept ne représente rien du tout. Dans le langage habituel, surtout aujourd'hui, où les gens ne sont pas précis du tout dans ce domaine-là, on confond les deux, constamment. Alors, je crois qu'il ne faut pas confondre. Je crois que l'image est du domaine de la représentation et le concept est du domaine de la signification. Alors vous voyez, le jugement qui implique une adhésion, est-ce que le jugement implique une signification? Le jugement exprime quelque chose. J'adhère, ça exprime quand je dis Pierre est intelligent. Intelligent est signification, Pierre est signification. Et Pierre est intelligent, j'exprime quelque chose de nouveau en reliant ces diverses significations. Et alors, la sensation. Est-ce que la sensation représente? Est-ce que la sensation signifie? Est-ce que la sensation implique une expression de l'adhésion? Tout ça, c'est la connaissance. Connaissance sensible, connaissance intellectuelle. Mais comme c'est difficile, hein, quand on est à préciser notre pauvre langage, hein, la sensation, c'est une connaissance. La sensation ne représente pas. La sensation ne donne pas de signification. La sensation pour elle-même, hein, la sensation liée à l'intelligence implique une signification. Je veux dire, cette craie est blanche, je la sens. Mais la sensation elle-même de la blancheur, c'est quoi? Ça n'implique pas de signification. Je dirais, c'est une signification sensible. Qu'est-ce que ça veut dire, cette signification sensible? Ça n'a pas de signification. Très curieux. Ça, c'est une chose qui est à chercher. C'est une chose qui est à chercher. Ça m'intéresserait beaucoup de chercher là-dessus. Parce que de fait, la sensation, on parle tout le temps de sensation, on dit la sensation est une connaissance. Mais la sensation, je touche, c'est ce que je dirais, je touche, je vois, j'entends, je goûte. Oui, oui, très bien. Il y a donc cinq sensations qui sont des touchés, qui sont des visions. Est-ce que on va dire la connaissance, c'est une connaissance sensible. Qu'apporte la connaissance sensible? Qu'apporte la connaissance imaginative? La connaissance imaginative représente, ça veut dire, il y a des images. Ça représente. Présente un petit chat. Tout de suite. Et vous voyez que c'est un petit chat. Ça représente. La connaissance intellectuelle signifie le jugement et la signification est du côté de l'appréhension. C'est l'appréhension. Le jugement, il adhère. L'intuition, elle intuitionne. C'est évident. Elle a intuitionné, c'est très bien. Comme sentir, vous sentez. Je veux bien, mais pas comment exprimer ces choses-là. Or, de fait, vous avez. Et c'est là, on voit très bien que le langage n'est pas aussi analogique que la pensée. Parce que vous voyez qu'au point de vue de la pensée, je peux penser une connaissance sensible, une connaissance imaginative. Et dans les connaissances sensibles, il y en a cinq. C'est pas la même chose de voir, pas la même chose de sentir, pas la même chose de goûter. Alors, qu'est-ce que cette connaissance? Qu'est-ce que ce contenu? Je sens, oui, je sens, je touche, oui, je vois, oui, très bien. Mais le contenu. Tandis que là, représenter, oui, l'imagination représente, la signification et le jugement. Quand je dis adhésion, c'est du côté subjectif. Et j'exprime. Oui, j'exprime. C'est pour essayer de comprendre que, de fait, il y a des niveaux différents de connaissance. La connaissance a des niveaux différents. Bon, je sais très bien ce que c'est que signifier. Or, la connaissance, toute connaissance, implique un concours, une coopération entre la réalité et le sujet. Dans toute connaissance, au point de vue d'analyse, il y a l'objet et le sujet. Alors, de temps en temps, le sujet exprime tout. De temps en temps, l'objet apparaît. Quand on dit qu'on se représente, c'est du côté de l'objet. Quand on dit qu'on signifie, c'est du côté de l'objet. Quand on dit qu'on exprime, c'est du côté de l'objet. Du côté de la sensation. Il y a quelque chose dans la sensation, il y a quelque chose d'objectif que je saisis dans la sensation. Je saisis une qualité sensible. Cette qualité sensible, je la vois, je la sens, je la touche. Mais du côté représentant, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas une signification. Je connais. Alors j'ai le terme commun, je connais. Je connais d'une manière sensible. Qu'est-ce que ça représente? Rien. Ce n'est pas de l'ordre de la représentation. L'imagination seule représente. L'intelligence seule signifie. Et c'est toujours la coopération des deux. Oui.
On pourrait faire une analogie avec la connaissance intellectuelle intuitive.
Mais oui, on fait une analogie, parce que justement, je ne fais pas d'analogie. Je veux, c'est justement ça. Ça prouve qu'il n'y a pas de mot. Dès que vous faites une analogie, ça prouve qu'il n'y a pas de mot. Les analogies, oui, ça je veux bien. Là, on dit on touche. Mais vous voyez, quand je dis je touche, c'est l'analogie pour la connaissance intellectuelle. Ce que je cherche, c'est le contenu. Exprimer la coopération de l'objet et du sujet. Ben, ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Et au point de vue critique, on reste quoi? Quand on est comme ça, on se dit quoi?
Oui, oui, mais justement, il n'y avait pas de mots. On doit pouvoir. Mais non, 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 non. Enfin, disons, vous le voyez, le poisson. Mais non, le poisson, c'est que la sensation touche quelque chose de l'objet. Et donc, comme je dis signifier, comme je dis représenter, je dois pouvoir dire quelque chose. Et je sais bien quand. Bon, au point de vue de ma pensée, je réfléchis sur la vision. Je réfléchis sur le toucher. Je réfléchis sur l'ouïe. Je réfléchis sur le goût. Chaque fois, c'est différent comme contact. C'est très curieux qu'il n'y a pas de mots.
On peut dire qu'il y a un jugement.
Oui. Comme ça, alors c'est analogique, ça.
Aristote dit qu'il y a un jugement.
Mais oui, mais justement, il n'y a pas de jugement. C'est autre chose. J'essaie de comprendre au point de vue critique. On dit l'apport de l'objet et du sujet, comment il y a une coopération entre les deux, parce que je ne peux pas sentir s'il n'y a pas la coopération de la qualité sensible et de l'activité sensible. Alors, la sensation, c'est du côté du sujet. La qualité sensible, oui, mais c'est la rencontre des deux qui fait la sensation. Et qu'est-ce que fait la sensation par rapport à l'objet? Vous êtes là, hein?
C'est pas un peu le tout conflit.
Ah non, 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 le tout conflit intellectuel, c'est du côté, c'est le passage de la représentation à la signification. Le tout conflit est ici. Il y a un dernier moment où on se représente le tout conflit, dans le brouillard. Il y a le tout conflit. Vous ne savez pas si c'est un camion, c'est un arbre, une maison, c'est un tout conflit. Il est baigné dans la représentation imaginative et baigné dans une représentation complètement imaginative. Je pose le problème parce que c'est très curieux, ça. C'est intéressant à voir parce que ça montre bien que, de fait, c'est vrai. On n'y a pas beaucoup réfléchi.
C'est une altération corporelle.
Oui, mais une altération corporelle, c'est du côté du sujet. Donc ça n'exprime pas ce que j'essaie de montrer ici. À du côté du sujet, on a tout ce qu'on veut. Non, c'est ça qui est intéressant, on est, c'est comme là, on est. Quoi?
Les sensations qu'on a de l'objet.
Qu'est-ce qu'il y a?
De l'objet, on a toutes les sensations qu'on
a. Non, mais vous n'exprimez pas le contenu de la connaissance, c'est ça que je voulais. Vous voyez? Il n'y a pas de mot. Il y a un contenu de connaissance. Je crois qu'on peut facilement comprendre signification, représentation. Là, j'ai des mots clés que tout le monde comprend. Qu'est-ce que c'est que la signification? La signification, c'est pas l'objet tout court, c'est pas le sujet tout court. Vous voyez? Et tout le problème est toujours sur la signification. Vous voyez, la connaissance transcendantale veut montrer que la signification provient d'une forme a priori. Et la signification est bien la forme a priori. Dans Descartes, la signification provient des idées innées. Bon, nous disons que nous, la signification, c'est un concours de la réalité et de l'intelligence. Et c'est dans le concept signifie. Et la signification n'est donc ni uniquement du côté de l'objet, ni uniquement du côté du sujet. Et, alors j'ai saisi un contenu qui a une signification. Et une signification qui peut être multiple, la signification du genre, la signification des différences spécifiques, de l'espèce, du propre, de l'accident. Très bien. Et ça regarde l'acuité. Ça signifie l'acuité, ça signifie. Alors, c'est très curieux parce que dès qu'il y a connaissance, il y a distinction entre objet et sujet. Bon, je vois des quantités ou non du côté du sujet. Altération. Très très bien. C'est la cause matérielle. Sensation, c'est la réaction vitale. D'accord. Mais c'est du côté. Mais qualité sensible, c'est du côté d'objet. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même quelque chose. Et je crois qu'on devrait pouvoir préciser. Vous voyez, c'est là qu'on voit, on a répété, et puis dès qu'on est devant un truc comme ça, on ne sait plus. Au fond, on a très peu étudié les philosophes, justement, la sensation depuis Aristote. On a très peu étudié, on a laissé ça au point de vue psychologique. Et puis on a très peu étudié, et je crois que c'est à cause de ça. Aristote dit constamment, n'est-ce pas, quoi, il le dit au moment des qualités sensibles, pas de mots. On comprend du temps d'Aristote, mais depuis quand même, on a réfléchi. Et bien on se trouve qu'on est devant des choses comme ça. Ça m'amuserait, hein, si vous le trouvez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est intéressant, parce que moi, je réfléchis là-dessus depuis longtemps. Pas tout le temps, hein. Quand j'arrive à ce sujet-là, dans une critique du mot représentation, signification, le jugement exprimé, le jugement exprime. Je crois qu'en effet, le jugement exprime, on exprime quelque chose. Exprimer n'est pas autre chose, est différent que le point de vue signification, et différent de la représentation. On exprime un principe, on le dit. Un principe, c'est plus qu'une signification. C'est pas de l'ordre de la signification, uniquement, c'est autre chose. Alors c'est quoi, hein? Pas de mots. Et quand il n'y a pas de mots, ça prouve qu'on n'a pas beaucoup communiqué. On y a réfléchi, personnellement, on l'a gardé pour soi. Bon, pour soi, j'ai pas besoin de mots. C'est égal. J'ai compris, très bien. Mais déjà que c'est difficile de pouvoir montrer qu'il y a là un petit problème. Ou les mots. Alors, c'est à propos de ce problème-là, vous voyez. Pourriez-vous définir la part du langage dans la connaissance? La part du langage dans la connaissance. Le langage présuppose la connaissance intellectuelle. Alors, c'est ici, on va mettre le langage. Le langage présuppose la connaissance intellectuelle, le jugement et l'appréhension. Et le langage est porteur de signification. Quand je dis chat, chat est porteur de signification. Vous voyez ? Quand je dis aorte, est porteur de signification. Ce matin, le frère John Thomas cherchait le mot. Alors, on passait de l'anglais au français. Alors, c'est porteur de signification, selon les différents langages. Le langage est porteur de signification. Est-ce que le langage est porteur de représentation? Le symbole est porteur de représentation. Pas le langage directement, le langage symbolique. Mais pas tout langage. Est-ce que le langage est porteur d'expression? Oui. Parce qu'il implique d'ailleurs. Quand je dis hein, est-ce que c'est porteur d'expression ou signification? Quand je dis est-ce que c'est porteur de signification ou d'expression? Ou bien ça signifie que je ne peux pas exprimer. Je dirais que ça signifie que je ne peux pas exprimer. Alors je dis je ne peux rien exprimer. Ça me dépasse, ça j'exprime pas. Je signifie ça. La signification la plus élémentaire, hein, c'est A. La signification dernière, oméga. C'est quelque chose. Alors je ne dis pas oméga, je dis parce que pour montrer que je suis uniquement ému, je suis pris par une certaine signification d'une émotion. Signification d'une émotion, je ne peux rien dire d'autre. C'est extraordinaire. Vous dites ça de temps en temps. Sans vous en apercevoir, comme vous dites. Le mot souffle est coupé. Je n'arrive pas à exprimer, je suis donc uniquement dans une signification qui me dépasse. Je dis « Ah ». Signification la plus élémentaire qui soit, au point de vue langage. Alors, c'est le langage dont provient la connaissance, le langage signifie, le langage est lié tout de suite. Je prends ce que je conçois comme langage, ce que saint Thomas conçoit comme langage, ce qu'Aristote conçoit comme langage. Parce que si vous regardez le langage analytique d'aujourd'hui, du moins, le langage conçu dans la philosophie analytique d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Parce que le langage, alors, est pris pour lui-même, comme le renard, comme le sphinx d'Égypte. Il est pris pour donc ayant sa propre signification, sa propre indépendamment de l'homme. Et c'est pour ça qu'en philosophie analytique, je ne dois plus jamais parler de l'homme. Je ne dois pas parler de l'homme qui parle, je dois parler uniquement du langage. Et le langage est pris pour lui-même. Tandis qu'au contraire, dans une perspective réaliste, le langage exprime ce que je connais. Donc, pourriez-vous définir la part du langage dans la connaissance? Alors, vous voyez bien, la part du langage dans la connaissance. Est-ce que ma connaissance, c'est un des lieux très importants, je ne sais plus dans quel dialogue, de Platon, savoir si ma connaissance provient du langage ou si ma connaissance provient de la réalité. C'est dans quel milieu?
Le mythe de Teut.
Oui, non, c'est pas ça. C'est pas le mythe de Teut. Le mythe de Teut, c'est l'origine du langage. Mais c'est dans un dialogue qui se pose la question, est-ce que la connaissance provient du langage? C'est la question. Oui, ou la connaissance provient de la réalité, je ne sais plus, c'est facile. C'est peut-être. C'est plus c'est le cas, c'est facile que ce soit gratuit. Alors, où il pose la question de savoir si le langage, pour moi, dans un dialogue, est constamment source de connaissance. C'est sûr. Et pour vous aussi, vous écoutez un cours. Le cours vous aide à comprendre. Je ne viens pas vous apporter dans ma poche toutes les choses, ce serait difficile, une substance. Hein. C'est pas comme moi, une substance. En fait, quand je parle de substance, vous montrez, je ne peux pas la représenter. Donc, la réalité m'aide à connaître, et le langage, et ce qui vient s'ajouter. Alors, dans une civilisation très poussée comme la nôtre, de notre civilisation occidentale, aussi bien qu'orientale, dans le monde d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, où la civilisation est poussée, le langage joue un rôle primordial. Et le langage est très souvent source de connaissance. Et parce qu'il est source de connaissance, il risque de faire que je tombe dans la cérébralisation. Parce que je ne rejoins plus la réalité. Et je reste au niveau du langage. Et c'est très vrai, ça, c'est très très vrai. Et je crois que même c'est le défaut du théologien. Il reste au niveau du langage, de la parole de Dieu, il ne contemple plus le mystère. Alors que le langage est fait pour me conduire au mystère. La différence entre la méditation et la contemplation. La méditation, je reste au niveau de la parole. Tandis que la contemplation, par la parole, j'adhère au mystère. J'adhère au mystère, j'entre dans le mystère. Et c'est la même chose entre le langage et la connaissance. Le langage doit être un moyen de m'introduire dans la connaissance de la réalité. C'est un moyen. Il remplace la réalité momentanément. Mais il ne faut surtout pas qu'il la bouche, qu'il la cache. Qui l'empêche mon intelligence d'atteindre la réalité. Le langage est un tremplin qui doit me conduire à la connaissance de la réalité. Mais quelquefois, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est très souvent comme ça, le langage est vraiment quelque chose qui m'arrête. Je connais, ah, ça signifie ça, très très bien, c'est suffisant. Donc on fait de la philosophie en disant, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est de connaître le langage philosophique. Si vous connaissez le langage philosophique, vous pouvez passer les examens, avec un professeur qui n'est pas très intelligent, vous pouvez passer les examens, parce que le professeur s'attendra uniquement à un langage à peu près cohérent. Mais vous ne serez pas philosophe. La connaissance de la signification du langage n'est pas la philosophie. La philosophie, c'est connaître la réalité, c'est connaître l'homme. Je me sers du langage pour connaître l'homme, pour revenir toujours à l'expérience de l'homme. Oui. C'est la différence entre la philosophie et passer des examens de philosophie. Pour passer des examens de philosophie, il faut connaître le langage philosophique, il faut un peu de rhétorique. Du bagou, comme on dit. On passe tous les examens qu'on veut. On passe tous les examens, mais c'est pas la philosophie, ça. Je reste au niveau du langage. Et ce que dit très très bien saint Thomas, les querelles au niveau du langage ne sont pas des querelles philosophiques. Quand je discute au niveau du langage, vous envoyez ce langage-là, que nous puissions dire très bien, on précise exactement, mais ce n'est pas ça qui est intéressant, parce que le langage est conventionnel. Très bien, on a tous son langage, au bout d'un certain temps, tout à fait, on a tous son langage, et ce langage est conventionnel, ce langage doit aider à découvrir la réalité. Mais où on se retrouve, c'est dans la réalité, parce que si on se retrouvait dans le langage, ce ne serait pas très intéressant. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de se retrouver dans la réalité. Alors, vous voyez, le langage provient normalement de la connaissance. Mais pour beaucoup d'entre nous, le langage va nous permettre de connaître. Donc, va être un moyen dont on se sert pour enseigner. On se sert du langage pour enseigner. Mais le langage est un moyen et non pas un terme. Par le langage, j'éveille l'intelligence. Le langage va faire naître des concepts par le point de vue de la signification, va éveiller des images et des représentations, et je vais revenir à la réalité. Oui. C'est constamment comme ça que nous faisons, si nous essayons de réfléchir un peu. Oui. Vous avez beaucoup de peine à entrer dans le langage de saint Thomas, vous avez beaucoup de peine d'entrer dans le langage d'Aristote, et vous entrez dans le langage d'Aristote et de saint Thomas, et puis par là, vous revenez à la réalité. La réalité, c'est vous. La réalité, c'est celui qui est à côté de vous. La réalité, c'est l'univers. Hein? Si vous n'aviez jamais vu d'homme, vous ne pourriez pas faire la philosophie de l'homme. On ne peut faire la philosophie que des réalités qu'on a expérimentées. Au-delà du langage. Autrement, je fais une philosophie analytique. Et la philosophie analytique, c'est justement s'arrêter au langage. S'arrêter à la signification du langage, c'est pas revenir à la réalité. Parce qu'il n'y a que le langage. Donc, voyez bien, hein, pouvez-vous définir la part du langage dans la connaissance? Donc, normalement, le langage provient de la connaissance. Le fondement du langage, c'est ma connaissance intellectuelle. Mais très souvent, constamment, le langage est source de connaissance. Je me sers du langage pour conduire à la connaissance, éveiller. C'est là la différence, vous voyez, entre un livre qu'on lit et un cours qu'on écoute. Normalement, le livre, c'est la lettre, vous voyez, c'est la lettre écrite. Alors, si on connaît déjà un tout petit peu, on peut progresser. Si on ne connaît pas du tout, c'est très très difficile. Les initiations se font toujours par le langage. Tandis que quand on connaît, on peut progresser avec un livre. Il faut déjà savoir pour pouvoir lire. C'est très curieux ça. Et c'est un fait ça, c'est ainsi. Il faut déjà savoir pour pouvoir lire. Il faut déjà une certaine connaissance philosophique pour lire Aristote. Tandis que si vous mettiez tout de suite à lire Aristote sans aucune connaissance philosophique, je ne sais pas jusqu'où ça irait. Mais je ne crois pas très loin. Tandis que c'est déjà un tout petit peu un appétit intellectuel, une ouverture intellectuelle, alors à ce moment-là, on se jette sur Hegel. Vous voyez ? Et on lit Hegel. Tandis que si on fait autrement, il n'y a pas de connaissance intellectuelle, il n'y a pas d'éveil. La lecture, le livre n'éveille pas. Tandis que normalement, un cours doit éveiller, parce que dans un cours, le professeur est censé penser actuellement. Pas toujours, mais il est censé penser actuellement. Alors quand il pense actuellement, le langage est donné, il sort de source. Donc il est lié à la source, il est lié à l'intelligence qui pense. Tandis que dans le livre, il est coupé l'intelligence qui pense. Il est fossilé. Il est arrêté. Alors, à ce moment-là, il ne peut pas éveiller. Tandis que dans le coup, la parole est une parole vivante qui éveille. Et qui peut éveiller. C'est la force de la tradition. La tradition maintient un langage vivant. Tandis que l'écriture arrête. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est qu'il faut une tradition. C'est ce qu'on appelait habituellement une école. Une école, c'est une tradition. École Saint-Jean. Mais c'est une tradition. Vous voyez ? C'est une tradition aristotélico-thomiste. N'est-ce pas ? Donc c'est une tradition qu'on transmet et qu'on essaie de transmettre et de maintenir le mieux qu'on peut. Vous voyez ? Le jour où il n'y a plus de tradition, qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bibliothèque-thomiste. N'est-ce pas ? Alors vous regardez les choses et vous voyez, bibliothèque-thomiste, c'est très bien, la bibliothèque, c'est très heureux, il la faut, c'est nécessaire. Mais si la bibliothèque n'est pas enveloppée affectivement de l'école de la tradition, ça devient très difficile. Je crois qu'il y a beaucoup de poussières qui vont s'accumuler dessus et qu'on ne regarde plus. On regardera ça à titre historique. À cette époque-là, on écrivait encore des livres sur saint Thomas. Mais maintenant, c'est fini. Alors, vous voyez, le langage, fruit de la connaissance, le langage peut être aussi source de la connaissance. Il y a les deux. Donc, dans la connaissance sensible d'abord, alors dans la connaissance sensible d'abord, voyez bien, ma connaissance sensible est éveillée par le langage. C'est évident que le sensible écoute. Mais ce n'est pas la sensation qui va vous faire éveiller à la signification, c'est l'intelligence. Donc j'entends la voix, mais j'entends pas la parole. J'entends la voix. Et la voix m'éveille. Normalement. Quand on voit des étudiants qui dorment, on crie plus fort. Et on les réveille, on les empêche de dormir. Hein. Non, c'est une miséricorde. Pendant que ils ne doivent pas dormir, donc on doit les réveiller. Alors on les réveille par la voix, pas par la signification. On les réveille par la voix et la voix en entend, et puis c'est un réveil, tout simplement. Et puis par là, l'intelligence se représente d'une image. On les réveille par la voix et la voix en entend, et puis un cheval, tout simplement. Et puis, par là, l'intelligence se représente d'une image, et puis on pense. Signification. On coopère. Donc, je ne vais pas plus loin. Nous allons maintenant, si vous voulez continuer, après avoir revu ces biens, je viens voir le domaine de la représentation et de l'image. Entre la signification et les sensations. Oui. Pour l'imagination. On est là en face d'un éclaircissement tellement important dans notre vie. L'imagination est d'une très très grande importance. Ça, c'est évident. On est. Il ne faut pas du tout diminuer l'importance de l'imagination. Il faut reconnaître l'importance de l'imagination comme métaxu, comme intermédiaire. Et en même temps, reconnaître qu'on a beaucoup de peine de la dépasser. Il y a beaucoup de peur. On est engouffré dans une civilisation audiovisuelle, comme on dit aujourd'hui. Dans une civilisation audiovisuelle, on cultive l'image. Et on met en situation limite la signification. Au bout d'un certain temps, notre culture sera une culture d'abruti. Parce qu'il n'y aura plus que la représentation. Il n'y aura plus ça. Alors, uniquement la représentation, ça fait que la signification des rapports. C'est très bien l'audiovisuel, c'est très très bien, mais ça n'apprend rien. Ça crée un milieu. Ça n'apprend rien. Ça éveille le point de vue d'intérieur de la sensation, et puis c'est tout. Mais rien du tout. Non, c'était ce que je vous ai déjà dit. Le grand prévôme de Mgr Gilson qui dit « Nous avons une civilisation audiovisuelle, comment la transmission de la foi doit être faite ?» Parce que la foi est au-dessus de la représentation. Représentez-vous la foi. La foi est l'ordre de la signification et de l'expression et de la proclamation de foi. Alors on comprend très bien l'audiovisuel, je peux représenter un état de culture, je peux représenter les choses, mais le problème profond, très profond, le témoignage est-il audiovisuel ou le témoignage est-il de l'ordre de la signification et d'expression? C'est très important de se poser ces questions-là, autrement on tombe dans tous les panneaux. Est-ce que le témoignage est-il audiovisuel ou est-ce que le témoignage est de l'ordre personnel de la signification et de l'expression. Il faut réfléchir là-dessus. C'est pour ça que c'est intéressant et important de bien voir le domaine de l'imagination, le domaine de la représentation, donc le domaine où toutes les sensations sont reprises, dans le domaine de la représentation. Et le cinéma, c'est le lieu par excellence de la représentation. C'est pour ça que je ne crois pas que c'est une très, très grande difficulté, ça va appeler l'art. Qu'est-ce que ça représente comme art? C'est très, très important. Parce que ce n'est pas, je ne crois pas que c'est un grand art. C'est un art second. Alors ça peut être très grand, vous voyez, comme art second, mais ce n'est pas un art premier. Parce que le cinéma utilise tous les autres pour donner des synthèses extraordinaires, imaginez. De la représentation. C'est pour ça que ça n'éduque pas.
On n'éduque pas, ça vous met. L'art vous éduque, mais pas le cinéma. Ça vous met dans la distraction beaucoup plus. Voyez. Et si avec le cinéma, au bout d'un certain temps, je crois qu'il y avait une espèce d'infécondité absolue. Alors à ce moment-là, on ajoute le plus qu'on peut, mais au fond, ce n'est plus vraiment l'art qui éduque, qui est belle dans l'inspiration. C'est des problèmes très très difficiles, hein. Et c'est des problèmes très importants à réfléchir aujourd'hui. Parce que si on veut réfléchir sur une culture, on veut réfléchir sur le point de vue de l'art. Et on veut voir dans une culture les différents phénomènes qui se passent. Et la culture implique la parole. Et une parole vivante. La transmission d'une parole vivante. Le jour où il n'y a plus de transmission d'une parole vivante et intelligente, qui est pleine de signification, il n'y a plus qu'une culture à niveau inférieur. C'est pour ça que dans une culture où l'élément audiovisuel l'emporte sur la parole, à ce moment-là, il y a une baisse de la culture. Comme disait une fois l'éditeur à propos de Donadère, il disait plus il y a d'images, plus ça se vend. Surtout quand l'article est difficile. C'était pas, c'est impossible. Ça exige de penser. Alors les gens ne veulent pas, ils veulent trop des images. Et puis des images un peu risquées. Comme ça, c'est mieux. Ça fait plus de repos. Hein. Alors, on voit très bien que de fait, ça fait le niveau d'une civilisation, ça. Parce que le milieu est fait pour la transmission de la pensée. Or, quand il n'y a plus de transmission de la pensée, qu'il n'y a plus qu'un poids audiovisuel, à ce moment-là, vous êtes en face de la marée basse. Alors, voyons maintenant, parallèlement à ce que nous avons vu au point de vue de la connaissance, voyons parallèlement le panneau affectif. Il y a un domaine affectif qui est très très curieux et très intéressant à voir. Qu'Aristote n'a pas traité du tout, très peu, dans son bien temps. Je crois que nous avons obligé, nous, d'en traiter beaucoup plus. Pourquoi ? À cause de la psychologie contemporaine. La psychologie contemporaine a mis très en lumière l'affectivité, et nous devons comprendre ce que c'est au point de vue philosophique. Autrement, alors on sera en face de l'affectivité, on laissera l'affectivité aux psychologues. Alors, on doit au contraire étudier ce que c'est que l'affectivité. On doit comprendre que parallèlement au domaine de la connaissance sensible, les cinq sens externes, le sens commun, l'imagination, je pourrais voir tout de suite après l'imagination, j'en dis un petit mot, parce que l'imagination, la mémoire, parce que l'imagination va impliquer la mémoire. Alors avant de voir l'affectivité, mettez ça, je me trompe, il faut mettre la mémoire, j'allais l'oublier. La mémoire, c'est une imagination qui est gardée. On garde les images. C'est très important, ça. Le Capharnaüm qui est en nous, hein. Une image, surtout dans le domaine d'aujourd'hui, enfin, les civilisations audiovisuelles. Alors, c'est des avalanches successives. Alors, vous voyez tout ce qu'on engouffre dans une journée. Alors, tout ce qui est mis dans le Capharnaüm, après une image, sinon. Et une image efface une autre image. Mais elle a existé. Donc, elle demeure. Il y a une espèce de chose très, très curieuse en nous. C'est qu'il y a quelque chose qui nous permet de garder les images. La mémoire. La mémoire, c'est... Je parle ici de la mémoire sensible. Je ne parle pas de la mémoire intellectuelle. Alors que ce soit très lié constamment, c'est sûr, mais il y a une mémoire sensible. Il y a une mémoire sensible, il n'y a pas qu'une mémoire intellectuelle. La mémoire intellectuelle, c'est tout simplement l'intelligence. L'intelligence, par elle-même, garde. L'esprit est au-delà du devenir, comme l'esprit. Et donc, il garde. Saint Augustin qui met la mémoire intellectuelle. Mais au fond, la mémoire, au sens fort, elle est sensible. Il y avait le prolongement de l'imagination. L'imagination, c'est le fait de... Je veux dire, la mémoire, c'est le fait de garder les images. De les garder dans un certain ordre. Quand je dis le Capharnaüm, on peut ordonner un Capharnaüm. On peut mettre une balai d'un côté, N'importe quoi. L'ordre Capharnaüm, c'est par définition très ordonné, très anarchique. Ça dépend des gens. Mais on ordonne. Et bien, c'est vrai que la mémoire s'ordonne. Mais elle s'ordonne d'une façon très curieuse. Vous rappelez des choses, hein, quand on se rappelle de quelque chose qui s'est passé. On sait que les images sont liées à côté des images. Et alors, il y a des choses, quand on fait trop d'attention, impossible de se rappeler. Impossible. Il y a des noms comme ça. Puis quand on vieillit, les noms. L'intelligence ne bouge pas, mais l'imagination, alors, et la mémoire, ça vieillit, ça. Ça, c'est évident, c'est sensible. Alors, les empreintes sont beaucoup moins fortes. Comme disait toujours mon vieil oncle, ça m'a toujours beaucoup impressionné quand il avait 75 ans. Alors il me disait toujours, c'est curieux, les souvenirs qui restent les plus nets, ce sont ceux qu'on a eus à 18-20 ans. Les rencontres qu'on a faites à 18-20 ans restent beaucoup plus nettes. C'est pas celles qu'on a faites à 45 ans. On en a déjà tellement vu. Tandis qu'au contraire, à 18-20 ans, on est encore dans un état d'éveil. Jusqu'à 35 ans. C'est comme disait le père Abbé. Jusqu'à 35 ans, on peut changer de vie, en fait. Après, c'est plus difficile. Après, c'est plus difficile. Mais il y a des exceptions. Alors, il y a des exceptions. Mais c'est très vrai, ça. Il faut regarder les choses comme elles sont. Il faut voir les choses comme elles sont. C'est qu'un vieillard enregistre beaucoup moins. C'est pour ça que c'est très difficile, ce qu'Aristote constate quand il dit, c'est très difficile pour un vieillard d'avoir des nouvelles d'héritiers. Et c'est pour ça que dans tous ceux qui sont ses contemporains sont morts, ils restent seuls. Alors il y a ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses petits-neveux, ses arrière-petits-neveux, mais ça remplace un peu. Mais c'est pas une véritable amitié, c'est parce qu'ils retournent dedans. Celui qui est perdu. On a l'air dans le dedans, mais en réalité, c'est pas une véritable amitié. C'est un souvenir. C'est une présence, un souvenir. C'est très curieux, ça. Le fait de comprendre que la mémoire ainsi que l'imagination, c'est pour ça qu'on dit, vous savez bien, au point de vue mathématique, qu'on a une intuition mathématique jusqu'à 40 ans, et après, c'est fini. Fini, hein, déchirons des avoirs, à que je me tenais. Mais à partir de 40 ans, on n'a plus d'intuition, parce que c'est surtout point de vue imagination dans l'intelligence. Point de vue art, c'est différent. C'est là où on a la différence. Les artistes, les grands artistes ne vieillissent pas. Je dirais que l'art est de plus en plus pénétrant. De plus en plus pénétrant. Tandis que les mathématiciens vieillissent. Parce que l'imagination est plus forte. Tandis que dans le grand art, non. Et au point de vue métaphysique, on ne vieillit pas. Au point de vue métaphysique, au point de vue philosophique, on ne doit pas vieillir. N'est-ce pas? C'est le temps que l'intellect n'est pas, l'intellect actif n'est pas raboli, on ne vieillit pas. On reste avec une possibilité d'aller toujours plus loin, et une possibilité d'avancer toujours plus loin. Tandis qu'au contraire, au point de vue mémoire, au point de vue imagination, c'est diminué. Et c'est pour ça que normalement, le langage s'appauvrit. On a fait cette étude dans Saint-Thomas. Le langage des enfants, c'est beaucoup plus riche que le langage de la somme. Et le langage de la somme est beaucoup plus précis que le langage des sentences. Oui. Alors là, vous voyez bien la part imaginative du langage. Il y a une part imaginative. Alors on a peut-être moins d'originalité, mais il y a une pénétration plus grande. Vous voyez, l'apport de l'intelligence et de l'imagination. Eh bien, la mémoire, c'est à la suite de l'imagination. C'est l'imagination demande d'être gardé. Il faut garder les images. Les images sont gardées et sont ordonnées les unes par rapport aux autres. Et ces images, c'est de l'ordre attentionnel, donc c'est facile de les garder. On les garde virtuellement et de temps en temps, elles réapparaissent. Ça, il suffit de penser à nos distractions. Pensez à vos distractions, vous apercevrez que votre imagination, votre mémoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle revient tout le temps. Même quand vous ne voulez pas. Et même, je dirais, moins, plus on la chasse, plus elle revient. Tenace. Parce
que la nature a horreur du vide, alors s'il n'y a pas quelque chose de plus, c'est l'imagination qui revient, et c'est la mémoire qui revient. Enrichie d'une quantité de choses, du reste, parce que c'est quelquefois des trouvailles étonnantes que fait la mémoire. On rapproche deux événements tout à fait extraordinaires, et on les rapproche l'un à côté de l'autre, et on se dit, tiens, alors on a à l'intérieur de la mémoire des espèces d'intuitions étonnantes, tu vois, des rencontres étonnantes qui peuvent se faire comme ça. Les dialogues de Platon sont magnifiques pour voir ça, mais Parménide, les rencontres entre Parménide et Socrate, c'est quand même étonnant. Et au fond, c'est ça, c'est l'art qui fait ça, qui se sert de l'imagination, qui se sert de la mémoire pour faire des intuitions nouvelles, pour faire des rencontres nouvelles. Alors, ça, c'est la mémoire qui sert ça. Donc, la mémoire est un succès d'année d'imagination. Un succès d'année. C'est un trésor. Quand je dis succès d'année, comprenez bien, ça ne veut pas dire que c'est moins important. Ça veut dire que ça vient après. La mémoire n'a rien d'original, tandis que l'imagination a quelque chose d'original. La mémoire n'a rien d'original, si ce n'est l'ordre nouveau qui peut se faire, ou l'ordre chaotique qui peut se faire. Alors qu'il se fait qu'à ce moment-là, le point de vue de la mémoire lié à l'imagination, c'est quelque chose de chaotique qui peut se faire là de nouveau. Alors, c'est l'imagination qui va renaître à partir de là. La mémoire, donc, je n'ai pas un pouvoir direct sur la mémoire, exactement comme sur l'imagination. Je n'ai pas un pouvoir direct. Je ne peux pas me rappeler toujours immédiatement. Alors, j'ai des moyens. Hein, on sait très bien qu'on a des moyens pour se rappeler quand on apprend par cœur. Alors on voit comme ça à ce moment-là. Puis il y a des gens qui ont une mémoire folle et des gens qui ont moins de mémoire. Ça, c'est aussi, ça dépend des impressions plus ou moins grandes et puis surtout des méthodes, je crois. Question de méthode, de se rappeler, d'avoir bien enregistré. Et quelqu'un comme le père Speke, quand il faisait son lexicon, aucune fiche, tout dans la mémoire. Tout était casé. Extraordinaire. Comme ça, c'est grivé, évidemment. Elle a demandé de temps en temps une petite précision, se rappeler, mais tout était présent. Mais tout est organisé, vous savez. Une bibliothèque ambulante. Elle a donné le fichier matière, et je tirais, et ça devient extraordinaire. Mais c'est vrai, la mémoire comme ça, une chose extraordinaire, comme ça peut être une chose assez étonnante, et on voit très bien comment une image en appelle une autre, et comment successivement ça vient. C'est l'origine du planeur. Hein. On voit très bien, les choses s'appellent mutuellement. Alors, vous avez donc la mémoire liée à l'imagination. La fois prochaine, on verra l'affectivité. Alors ça, c'est passionnant, l'affectivité.